Alors, ça fait 2 semaines aujourd'hui que Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, a dit « Moi, je vais mettre sur pied un programme de tutorat pour les élèves en difficulté. » On l'attend toujours. On a demandé à Jean-François Roberge de venir dans l'émission. On s'est fait répondre pas tout de suite. La semaine prochaine, devrait y avoir une annonce. En attendant, on va aller retrouver les 3 femmes qui sont les porte-parole respectives de leur parti. Et donc, elles sont là pour faire avancer la cause de l'éducation. Marois Risky, députée de Saint-Laurent, porte-parole pour le Parti libéral. Bonjour, Marois.
Bonjour.
Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole pour Québec solidaire. Bonjour, Christine Labrie.
Bonjour.
Et Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole pour le Parti québécois. La ligne vient de couper, on va la retrouver dans un instant. Marois Risky, on va faire œuvre utile. Je veux pas là qu'on fasse 10 minutes de critique de Roberge, c'est pas utile. Moi, ce que je note, là, c'est que sur le site Répondez Présent, c'est même pas possible actuellement de déposer son CV. Puis on sait ce qu'on veut. On veut des anciens enseignants, enseignantes qui se portent volontaires pour aider des élèves en difficulté. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un enseignant ou une enseignante qui nous écoute, qui est à sa retraite, pour la convaincre, quand le site va le permettre, de déposer sa candidature pour devenir tuteur ou tutrice? Soyons positifs, là.
Bien, bonne nouvelle, M. Drainville. Il y a déjà des enseignants qui ont levé la main et qui veulent aider et qui sont prêts à le faire. Il attend juste qu'on lui donne le go. Et j'irai plus loin que ça, là, juste pour vous donner un exemple concret. Moi, j'ai 12 d'étudiants collégiaux qui ont levé la main et qui vont dès lundi commencer à prêter main forte à Saint-Laurent parce qu'on les a mis directement en contact avec mon bureau de comté, avec des écoles de Saint-Laurent, parce qu'on peut plus attendre après le ministre là-dessus. Moi, je vous le dis, on a proposé au gouvernement depuis le mois d'octobre de même demander aux étudiants collégiaux et universitaires de venir donner un petit coup de main en français, en mathématiques. C'est bon pour eux, ça brise l'isolement pour les étudiants universitaires et collégiaux. Et en plus de ça, c'est bon pour les signes de soi. Puis ça permet aussi à un jeune élève du secondaire d'avoir un autre adulte significatif qui donne aussi le petit coup de main là, pour le motiver à finir l'année.
Oui. Je vais aller, Christine Labrie, pardonnez-moi, je vais aller tout de suite à Véronique Yvon parce qu'on va la perdre dans quelques minutes. Véronique Yvon, pour convaincre quelqu'un qui nous écoute de déposer sa candidature, vous lui diriez quoi?
Bien, que c'est fondamental, qu'il va vraiment jouer un rôle aussi utile pour les élèves du Québec que les préposés aux bénéficiaires qui ont levé la main l'ont joué pour les personnes en CHSLD. Comme je dis souvent, c'est pas parce que ça saigne pas, c'est pas parce que c'est pas de la souffrance physique que ça veut pas dire qu'il n'y a pas urgence d'agir. Alors, nous, on demande vraiment au ministre de tout faire pour que ça se déploie rapidement et on demande autant aux étudiants qu'aux retraités qui n'ont pas nécessairement le goût de revenir s'occuper d'une classe pour toute une année, mais qui ont le goût de faire une différence dans la vie d'élèves qui ont des difficultés particulières, surtout cette année, de lever la main. Ça va faire toute une différence pour ces gens-là, alors que c'est un investissement aussi très valorisant pour les personnes qui vont se porter volontaire.
Christine Labrie, bon, vous n'êtes pas ministre de l'Éducation, mais vous réfléchissez à ces questions-là. Donnez-nous une idée un petit peu de comment vous le concevez, le rôle de ce tuteur ou de cette tutrice? Est-ce que c'est quelqu'un, je sais pas moi, qui serait là le matin dans une classe à part, qui prendrait avec lui, avec elle, certains élèves? Comment on fait ça en enseignement à distance? Mettons concrètement, là, comment ça fonctionnerait?
Mais je pense que ce qui va être important là-dedans, c'est de s'adapter aux besoins des élèves. Il y en a qui vont préférer le faire en ligne, il y en a qui vont avoir besoin que ça soit vraiment en présence. Il y en a peut-être qui vont avoir besoin de soutien très individualisé, là, tout seul avec un tuteur. Il y en a qui vont peut-être vouloir avoir besoin d'aide, mais plutôt plusieurs élèves en même temps dans un groupe. En ce moment, la récupération dans les écoles secondaires, ça se fait pas comme ça se faisait avant. Là, c'est pas aussi accessible que ça l'était. Donc, il y a clairement des besoins de cet ordre-là où plusieurs personnes ont besoin d'un tuteur en même temps, mais il y a aussi des besoins individuels, ça c'est certain. Donc, je pense que la nécessité là-dedans, c'est d'offrir vraiment une offre adaptée aux besoins là, de chaque jeune.
Okay, la ligne n'est pas super bonne, Christine Labrie. On va vous rappeler. Raccrochez, s'il vous plaît, puis on va vous rappeler parce que j'ai peur de vous échapper. Je retourne à Véronique Yvon parce que vous allez devoir nous quitter, Véronique. Donnez-nous une idée. Vous, là, mettons, là, vous pourriez mettre en œuvre le programme des tuteurs. Comment vous feriez ça?
Bien, d'abord, je mettrais en place des incitatifs. Donc, je ferai en sorte que pour les étudiants, il y a un incitatif à dire « je vais lever la main, je vais être rémunérée ou je vais avoir une bourse qui va me permettre, si je veux étaler mes études, un peu comme on le fait pour les étudiantes en sciences infirmières, de pouvoir aller donner du temps sans avoir de contre-coup négatif sur mes études. Donc, c'est quelque chose qui a été fait pour les étudiantes en sciences infirmières qui lèvent la main pour aller prêter main-forte dans le réseau hospitalier et des CHSLD, d'avoir ces bourses-là si elles décident, par exemple, d'étaler leurs études. Je pense que ça, ce serait quelque chose vraiment bien. Je pense aussi qu'il faut leur faire valoir tout ce que ça peut rapporter en termes de reconnaissance et que ce soit compétitif. Donc, il y a beaucoup d'étudiants en ce moment, il y a beaucoup d'emplois qui sont sur pause, mais il y a beaucoup d'étudiants qui ont des emplois à temps partiel. Bien là, il faut leur faire valoir que plutôt que d'avoir un emploi dans un dépanneur, dans une épicerie, dans une boutique, il y a tout à gagner d'aller gagner de l'expérience en même temps qu'on va faire une différence dans une année très difficile. Puis même chose pour les enseignants à la retraite. J'espère vraiment qu'il va y avoir des conditions intéressantes pour les faire venir. Puis je pense qu'il faut se fier aux gens sur le terrain qui vont dire c'est quoi le besoin de chaque élève qui vit des difficultés. Est-ce qu'il va bien travailler en groupe, à distance, en présence, en individuel? Donc, il faut être capable d'être flexible, mais il faut surtout que ça se mette en branle.
Oui.
Vraiment.
Marois Risky, j'ai une ancienne prof, si je comprends bien, qui m'écrit. Elle dit il n'y a pas avantage pour une retraitée à retourner travailler. L'impôt devient un frein. Vous qui vous êtes beaucoup intéressé aux questions de fiscalité, là, comment on donne un incitatif financier pour un retraité ou une retraitée de sortir de sa retraite?
Bien, je vais faire du pouce sur l'idée de Véronique. Libre d'impôt. Donc, l'incitatif qu'on va donner aux retraités, là, il faut qu'ils soient défiscalisés. C'est-à-dire, aucune pénalité. Et moi, j'irai encore plus loin. On le dit, c'est libre d'impôt, carrément, parce que sinon, on ne sera pas capable de tirer les gens. Si vous gagnez 1$ puis que le gouvernement passe par en arrière, vous en prenez 48 sous, est-ce que vous allez travailler? Bien sûr que non.
Là, je vais vous poser une question un peu embêtante, mais je vous la pose avec un sourire en coin, mais il y a un fond de sérieux. On dit souvent qu'en temps de crise, il faut que les lignes partisanes s'abaissent, puis il faut que tout le monde travaille ensemble. Je vais vous poser la même question aux trois. Je vais commencer avec vous, Véronique Yvon. Si le gouvernement Legault vous offrait de devenir ministre de l'Éducation, est-ce que vous accepteriez?
Moi, j'accepterais tout ce qui peut faire une différence. Donc, je pense qu'il faut, c'est Patrick Derry, je pense, qui a proposé d'avoir un cabinet de pandémie transpartisan. Je pense qu'il faut penser en dehors de la boîte. Puis nous, on le fait, hein, les trois dans l'opposition, on est vraiment très collégial dans notre approche. On échange des idées. Des fois, on sait même plus qui a proposé l'idée en premier. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on devrait avancer en éducation.
Puis donc, la réponse est oui, Véronique? La réponse est oui? Vous accepteriez?
Moi, je suis prête à tout faire pour améliorer l'éducation.
Wow, c'est bien ça. Christine Labrie, je vous pose la même question. Écoute, solidaire, une députée solidaire qui rentrerait dans un gouvernement d'unité nationale pour traverser la pandémie comme ministre de l'Éducation, est-ce que vous accepteriez?
Vous savez, moi, je pense que le plus important pour y arriver, là, c'est de travailler ensemble les uns les autres. C'est pas juste une personne toute seule en titre de ministre de l'Éducation qui va avoir toutes les solutions puis qui va être capable de régler ces problèmes-là. Je pense que peu importe qui serait ministre, la meilleure façon de procéder, c'est d'être vraiment à l'écoute des propositions des autres puis de les considérer sérieusement.
Madame Labrie, excusez-moi, là, vous avez raison. Mais c'était pas ma question. C'est une vraie question que je vous pose.
Ben écoutez, si je l'étais ministre de l'Éducation en ce moment, vous pouvez être certain que j'assoirais les porte-parole d'éducation des autres formations politiques avec moi, que j'assoirais les principaux partenaires du réseau d'éducation, puis qu'on réfléchirait ensemble pour mettre en œuvre les solutions. Je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer qu'il n'y ait pas d'angle mort, puis qu'on arrive avec des solutions qui répondent vraiment aux besoins.
OK, on se rapproche d'une réponse. Vous m'avez dit, si j'étais ministre, voici ce que je ferais. Est-ce que vous accepteriez d'être ministre de l'Éducation pendant la pandémie?
Ben, oui, mais je le ferais de cette manière-là. Comme je vous dis, j'ai pas la prétention, moi, d'avoir toute seule les meilleures réponses.
Non, mais c'est pas ma question. Vous pourriez faire ce que vous voulez. Après, si vous voulez réunir les autres, vous pourriez le faire. Mais vous accepteriez de servir comme ministre de l'Éducation?
Certainement.
Marois Risky.
Je suis encore libérale, oui, mais je ne peux pas quitter ma formation. Ça ferait bien trop mal. Mais je pense que la vraie solution, c'est ce que Véronique a dit en reprenant l'idée de Patrick Berry. Ça serait peut-être maintenant le temps d'avoir un cabinet qui réunit tout le monde en même temps. Là. C'est vraiment ça, je pense, okay. qu'il est urgent de faire.
Oui, mais t'as pas répondu, Marois Risky.
Ben oui, j'ai répondu. Si je peux rester libérale, tout en étant ministre de l'Éducation pendant la pandémie, il n'y a aucun problème.
Ah non, mais je vous demande pas de quitter votre parti respectif. Ça, là. J'ai pris la peine de parler d'un gouvernement d'unité nationale. Là. Donc, ce serait...
La réponse serait oui.
OK, c'est intéressant. Alors, Véronique, finalement, vous ne nous avez pas quittés.
Je suis restée, c'était trop passionnant, puis là, je vais me faire chicaner pour ma prochaine rencontre.
Bon, OK. Bon, alors, en terminant, là, parce qu'il me reste quand même quelques minutes pour un dernier tour de table, là, le ministre Roberge dit qu'il va faire une annonce la semaine prochaine. On comprend tout le monde que vous trouvez que c'est trop long, ça aurait dû déjà être fait, mais il n'est pas trop tard, Véronique Yvon. Il est pas trop tard. Hein?
Il est tard, mais il est jamais trop tard. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on commence à avoir un petit peu de frustration parce que ça fait depuis le printemps dernier qu'on demande ça, un tutorat. On a proposé le « Je contribue ». Ça a été mis en place, mais malheureusement, heureusement pour les services donc de soutien, les éducatrices, les gens qui vont donner des directives, donner les masques, des choses comme ça, mais pas pour l'aspect pédagogique. Donc là, c'est sûr que sur Jean, on était super contents il y a deux semaines qu'enfin il y a une annonce, mais là, on constate qu'il n'y avait pas de fil attaché, que le recrutement n'a pas commencé. Donc là, ça urge. Si on veut que ça se mette en place avant qu'on soit rendu à Pâques, ça urge.
Christine Labrie, pourquoi c'est si long, vous pensez?
Mon Dieu, j'aimerais le savoir. J'ai l'impression que le ministre, quand il nous a parlé de son programme de tutorat, il c'était encore au stade de l'idée de son côté, parce que sinon, il aurait dû faire comme ça a déjà été fait dans le passé, par exemple, quand on cherchait des préposés aux bénéficiaires, c'était en ligne. C'était en ligne dans les heures qui ont suivi. Les gens pouvaient déjà s'inscrire. Il y a des gens, nous, dès le premier jour où ça a été annoncé, là, il y a deux semaines, qui nous contactaient pour savoir où s'inscrire. Il y avait déjà de l'intérêt. Donc, je pense qu'il y aurait avantage le ministre à s'assurer que son idée est aboutie, puis qu'elle est concrètement sur le point de se réaliser quand il en parle, parce que sinon, il crée des déceptions.
Moi, ce que je comprends pas, je l'ai dit. Je veux dire, t'es pas prêt à annoncer ton programme. Très bien, je comprends là que ça prend un certain temps avant d'attacher les ficelles, mais ouvre le site. Permet aux gens qui veulent déposer leur candidature de le faire dès maintenant. Permet aux gens qui vont se répondre présent de laisser leurs coordonnées puis de dire, moi, je suis intéressé dans telle région, dans tel secteur. Je sais pas, ça coûte rien d'ouvrir.
Tout à fait. On aurait pu récolter les coordonnées de ces gens-là dans les deux dernières semaines pendant que les derniers chiffres sont attachés. Aurait pu le dire aussi que ce serait rémunéré. Nous, il a fallu qu'on pose la question au premier ministre pour le savoir.
Ça, c'est Christine Labrie qui parle. Marois Risky, dernier mot, conclusion.
J'aimerais ça que le ministre Roberge arrête de nous voir, nous, le trio en éducation, comme simplement de l'opposition. Je pense qu'on amène plein de solutions, puis on veut vraiment l'aider. Mais lui, maintenant, il faut qu'il fasse preuve de leadership, qu'il entende vraiment nos idées, puis qu'il les applique, puis qu'il arrête, pour reprendre l'expression de Christine, d'être systématiquement en retard. Parce que là, c'est les enfants qui ont besoin de lui. C'est les enfants, les élèves du Québec qui ont besoin de leadership. Et c'est correct s'il n'y a pas tout le temps la réponse, qu'il vienne nous consulter, on va lui donner un coup de main. Et j'appelle même ses collègues, je lui disais en fin de semaine, pas journée, qui disait qu'il faut sauver le soldat Roberge. Moi, j'ai envie de vous dire, non, il faut sauver l'éducation puis l'année scolaire. C'est ça qui pince.
Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent. Véronique Yvon, députée péquiste de Joliette. Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke. Toutes les trois porte-parole en éducation. Merci beaucoup, mesdames. Merci pour le travail que vous faites.
Merci.
Vous faites un très beau trio. Bravo. On s'en va à la pause au retour. Patrick Lagacé.